Maintenant, j'aimerais qu'on se tourne vers la parole, que nous puissions y trouver quelque chose qui va nous encourager, quelque chose qui va nous faire voir un autre aspect de cette histoire que Jésus raconte, pas à n'importe qui, à ses disciples. Maintenant, libre à chacun de se poser la question, suis-je un disciple de Christ ? Alors, je vous invite à tourner les regards vers l'évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 16, et nous lirons les 13 premiers versets. Luc 16, et nous lirons les 13 premiers versets. Luc 16. Et je lis dans la traduction « Parole vivante ». Donc peut-être que le titre qui est en tête de ce chapitre n'est pas forcément le même que chez moi. Moi je lis, il s'agit de l'histoire d'un gérant astucieux ou de l'économe infidèle. Enfin, il y a plusieurs titres qui sont donnés à cette histoire. Alors, Luc 16, les 13 premiers versets. Et voici une autre parabole que Jésus raconta à ses disciples. Un grand propriétaire avait un gérant. On vint rapporter au maître qui gaspillait sa fortune. Celui-ci le fit appeler. « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ?» lui dit-il. « Tu vas me présenter tes livres et me rendre compte de ta gestion, car c'est bien fini. Tu ne peux plus rester à mon service. » Le gérant se dit « Qu'est-ce que je vais faire ? Puisque mon maître m'enlève la gérance de ses biens, travailler comme ouvrier agricole, j'en ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurai honte. Ah ! Je sais ce que je vais faire pour trouver des gens qui me recevront chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » Là-dessus, il fait venir séparément tous les fermiers de son maître. Il dit au premier, « À combien se monte le fermage que tu dois à ton maître ?»« 40 hectolitres d'huile d'olive, » lui répond celui-ci. « Voici ton contrat de fermage, » lui dit le gérant. « Assieds-toi là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. » Ensuite, il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 500 sacs de blé. Prends ton contrat, reprends le gérant et inscris-en 400. » Le maître admira l'habileté de ce filou de gérant, car le malin s'y était bien pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont généralement plus avisés que les enfants de lumière et ils agissent de façon plus conséquente dans la conduite de leurs affaires et dans les relations avec leurs semblables. Eh bien, moi je vous conseille, si vous avez de ces richesses, toujours plus ou moins entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où tout glissera de vos doigts, ils vous accueilleront dans la patrie éternelle. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui voudrait-vous confier les véritables ? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous confiera celui qui vous est destiné comme propriété personnelle ? Et le dernier verset, aucun serviteur ne peut servir en même temps deux maîtres, en effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. Voilà quelque chose qui est devant nous, là, qui paraît un peu compliqué. Les paraboles, en fait, sont des outils dont Jésus s'est servi pour enseigner et défendre la vérité. Elles servent toutes à illustrer des faits de l'Évangile et renferment des leçons essentielles que Jésus voulait transmettre au peuple de Dieu. Cette parabole nous apparaît difficile parce qu'elle semble, comme ça, d'un premier regard, ne pas être évangéliquement correct. C'est le moins qu'on puisse dire. parce que nous sommes surpris que Jésus puisse faire l'éloge d'un serviteur infidèle, menteur, manipulateur, tricheur et escroc. Bah, excusez les mots, mais moi je ne tourne pas autour du pot, il faut dire les choses comme elles se présentent. Et en plus, il est dénoncé, peut-être avec retard, mais enfin, mieux vaut tard que jamais, et il apprend qu'il est licencié. Il y a plusieurs titres qui sont donnés à cette parabole, et souvent on a mis l'emphase sur l'aspect de l'argent, de la finance. Mais je me pose cette question. L'aspect financier était-il réellement l'intention de Jésus ? J'observe que Jésus aime exprimer des propos qui choquent, voire même scandalisent les auditeurs. Par exemple, le fils prodigue qui réclame sa part d'héritage alors que son père est encore vivant. Ou encore ce semeur qui ne semble pas très professionnel en jetant la semence un peu partout. Il y en a autant à côté du champ que dans le champ qui est ensemencé. Et dans chaque parabole, nous pouvons trouver un point qui choque et qui interpelle. Et c'est ce qui rend la parabole intéressante et attirante. Et ici, dans la parabole de l'économe infidèle ou encore de l'intendant injuste, ce sont les actions frauduleuses qui servent de point d'attirance. Le but est bien sûr de produire une réaction, faire dire à l'auditeur comme au lecteur, mais où Jésus veut-il en venir ? Et c'est exactement ce que Jésus souhaitait, nous intriguer pour nous amener à considérer la parabole et à la méditer. Rappelons-nous aussi que par la parabole, Jésus veut avant tout nous donner un enseignement spirituel. La parabole du semeur n'a pas pour but de nous faire réfléchir sur la meilleure façon d'ensemencer un champ ou un jardin. Tout comme celle du bon berger, de nous donner des conseils pour retrouver un animal égaré. De manière générale, vous savez que ces textes ont une portée spirituelle. Et la semence représente la parole de Dieu qui est donnée à toutes les personnes et les différents terrains qui représentent les différentes manières avec lesquelles les hommes accueillent cette parole. Quant à la parabole du bon berger, elle exprime l'amour de Jésus qui est prêt à laisser à l'abri tous ceux qui le suivent pour retourner affronter tous les dangers par amour pour celui ou celle qui s'égare. Alors, pourquoi vouloir qu'ici la parabole de l'intendant injuste ne soit qu'une histoire d'argent ? Comment pour toutes les autres paraboles, il y a une portée spirituelle qui dépasse de loin l'escroquerie financière et il nous faut la découvrir. Premièrement, voyons le contexte. Cette parabole fait suite à trois autres au chapitre 15. La brebis perdue, la drachme, c'est la pièce de monnaie perdue, et le fils prodigue. Et elle est reliée à ces paraboles par un simple au verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples. Nous pouvons dire que nous sommes dans une continuité. Et j'observe aussi que les paraboles précédentes parlent toutes de quelque chose de perdu et de retrouvé. Chose qui a de la valeur pour celui qui cherche ou attend dans le cas du fils prodigue. Et ces trois paraboles nous parlent du salut, de la valeur qu'a une âme aux yeux de Dieu. Ensuite, à la fin du chapitre 16, Jésus raconte une autre parabole, celle du pauvre Lazare et d'un homme riche. Parabole qui parle aussi du salut. Et c'est de loin la plus sinistre et la plus troublante de toutes les paraboles de Jésus. Ainsi, le contexte qui nous est donné par Luc est le salut. Il nous montre l'amour de Dieu pour quiconque, homme, femme, jeune, de son engagement pour leur salut. Alors, pourquoi ne pas comprendre que le message de la parabole de l'économe infidèle concerne aussi cette merveilleuse vérité ? Que l'argent n'est pas le centre du message ? Peut-être qu'il y en a qui d'un seul coup se sentent plus à l'aise ? C'est tant mieux. mais qu'il n'est qu'une simple image comme la drague ou la brebis. En effet, dans la drague perdue et la brebis perdue, les sujets du salut sont assez statiques. C'est celui qui représente le Seigneur qui vient les trouver là où ils sont perdus. Dans le Fils prodigue, c'est le Fils lui-même qui, entrant en lui-même, comme le dit le texte, fait la démarche d'aller vers le Père. Il y a de ce fait comme une progression par rapport aux deux autres paraboles. Et dans celle de Lazare, c'est celui qui souffre et qui vit dans l'espérance qui obtient le salut, en opposition avec celui qui bénéficie de tout sans se préoccuper des autres. Les personnages, quels sont les personnages qui sont en jeu? D'abord, il y a l'économe. Après avoir été dénoncé et puis ensuite licencié, ce qui est, enfin, je pense que c'est un peu normal, il s'est fabriqué le bâton pour se faire taper dessus, hein, comme on dit. L'économe infidèle prend conscience de son état. Il est perdu. Puis il réalise que pour retrouver un travail, ça va être très, 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 très compliqué. Il n'est pas fait pour un travail de terrassier. Il est trop fier pour mendier. Il ne peut se sauver de cette manière par ses propres moyens. Et cependant, il comprend assez rapidement qu'il peut quand même s'en sortir. Il entrevoit une petite porte de sortie et il va effacer des dettes au débiteur de son maître au point où il en est, finalement, entre nous. Un petit peu plus ou un peu moins, quelle différence ? Qu'il truande un peu plus ou un peu moins, ça ne va pas changer pour lui. Et peut-être aura-t-il un jour besoin d'eux. Il pourra peut-être aller frapper à la porte de ces gens-là pour leur demander de l'aide. Et nous pouvons remarquer que ce n'est pas l'action frauduleuse de l'économe qui est louée, mais son habileté. Que signifie l'intendance ? Sur le plan spirituel. Jésus s'adresse là, je le répète, aux disciples, mais aussi à tous ceux qui liront cette parabole. Donc, nous pouvons nous considérer ce matin comme des intendants, des gestionnaires. Lorsque nous venons à Dieu, nous avons été rachetés au prix fort du sang de Christ, et de ce fait, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous devenons intendants de ce qu'il nous a donné et nous donne encore aujourd'hui et demain. Déjà au tout début de la création, en Genèse 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur toute la terre. » C'est-à-dire qu'il gère la terre, tout ce que renferme notre planète, le monde animal, le monde végétal, l'être humain. Il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont l'homme gère ce bien universel aujourd'hui. Nous connaissons tous l'état de la planète bleue, qui n'est pas si bleue que ça. Mais bon, ça c'est autre chose. 1 Pierre 4, versets 10 à 11 nous dit « Chacun de vous a reçu un don. » C'est une bonne nouvelle, non ? Vous avez tous, au minimum, tous ici ce matin, sans exception, au minimum un don. Alors peut-être que certains peuvent se dire « Ah, moi, non. Ah non, moi j'ai pas de don. Moi, je suis nul de chez nul. » Non. Dieu n'a pas pu faire une création qui lui ressemble de nul. Ça voudrait dire que Dieu est nul. Oui. Il faut réfléchir parfois à ce que nous disons. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas être nuls. Et je le répète, nous avons tous au minimum un don. Je dis bien, et j'insiste là-dessus. Donc Paul dit, chacun de vous a reçu un don qu'il utilise pour le bien des autres et le mettre à leur service. Ah, comme il convient à de bons gérants de la grâce, infiniment variés de Dieu. C'est-à-dire que le don que moi j'ai reçu, c'est à moi, c'est mon don à moi. Toi, Sandra, tu as un autre don. Et je ne veux surtout pas rechercher à avoir ton don. Non, non, parce que ton don, il t'appartient. Voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Luc 16, verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. En fait, Jésus dit, regardez les non-croyants, ils usent de prévoyance dans la conduite de leurs affaires terrestres. Mais vous, vous devez vous souvenir que votre futur n'est pas ici-bas, mais au ciel, et en ce sens, nos possessions, matérielles, temps, connaissances qui viennent de Dieu, tout en fait nous vient de lui, devront être gérées au mieux pour le glorifier, lui, et le faire connaître. L'expression « enfant de ce siècle » désigne ceux qui n'ont ni part ni intérêt dans le royaume de Dieu. Ils n'ont rien à espérer d'autre que les années restantes de leur vie terrestre. Ils se soucient bien davantage et plus intelligemment de leur retraite ici-bas que les enfants de lumière qui ont un avenir éternel à préparer. Vous avez peut-être déjà essayé d'imaginer ce que pouvait être l'éternité. Frères et sœurs, aujourd'hui, avec les temps qui sont très difficiles, nous avons besoin, chacun de nous, d'avoir une vision de ce qu'est l'éternité. Sinon, on ne peut pas tenir. Dieu m'a fait la grâce de me montrer l'entrée de cette éternité. Et tous les jours, j'aspirais. Véridique. Peut-être qu'un jour je vous expliquerai. Mais quand on a vu ça une fois dans sa vie, je peux vous dire que ça ne vous quitte pas là-dedans. À la fois là-dedans et là. Et tout ce qui se passe ici-bas me paraît bien pâle. Parce que je sais. Parce que je sais. Les gens sans foi consacrent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, d'adresse, de concentration pour se garantir plus de confort en vue de leur dernière année de vie terrestre. C'est normal, ils n'ont pas d'espérance. Pourquoi ? Parce qu'ils n'attendent rien d'autre. L'expression « enfant de lumière » désigne les vrais disciples de Christ. L'apôtre Paul dit d'ailleurs en Philippiens 3:20 « Nous sommes citoyens des cieux ». D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous que Jésus va revenir? Vous l'avez entendu? Mais est-ce que nous l'attendons réellement? Est-ce que nous faisons comme si Jésus allait revenir dans 5 minutes ou dans 20 ans? Parce qu'on doit vivre comme ça. Il est normal que nous nous attachions aux richesses d'en haut. Les amis avec les richesses injustes, qui sont-ils? De même, la conclusion de Jésus dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Là, j'avoue que c'est un peu difficile. Mais on va essayer. Toujours si on considère que cette parabole s'adresse à tous, mais pas qu'aux riches seulement. Les richesses peuvent être considérées comme la création de Dieu. Dieu met tout cela à la disposition de tous les hommes, du plus pauvre au plus riche, la vie, la nature, etc. etc. Mais et surtout le pardon de nos péchés, puisque tous nous naissons pécheurs, nous dit la Bible, et il n'y a pas un seul juste sur cette terre. Bon. Ces richesses sont injustes parce que nous ne méritons rien. Dieu est la source de tout. Les trois premières paraboles, je l'ai dit, nous parlent d'hommes perdus. Ces personnes se sont éloignées de Dieu. Tout tourne bien autour du salut en accord avec le contexte. C'est plus évident dans la parabole du fils prodigue, mais pour chacun, la réponse de Dieu est extraordinaire. Il donne le salut, or ce salut est immérité. Pour vous comme pour moi. Nous sommes au bénéfice de la grâce. Savez-vous ce qu'est la grâce ? C'est de recevoir quelque chose que nous ne méritons pas. Et cependant, nous croyons que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle, que nous avons un nom nouveau qui est inscrit dans le livre de vie. Ces richesses sont injustes, parce que je le dis, non seulement nous ne méritons rien, et en plus Dieu ne nous doit rien. Il nous a tout donné en Christ. Qu'attendons-nous de plus? Donc tout tourne bien autour du salut en accord avec le contexte. C'est plus évident dans la parabole du fils prodigue. Mais pour chacun, la réponse de Dieu est extraordinaire. Il donne le salut, et je le répète, ce salut est immérité. Et cependant, nous sommes sauvés par grâce. Dans le cas du fils prodigue, c'est plus flagrant. Il a dilapidé tout son héritage. Il le dit lui-même. Il ne mérite plus même d'être appelé fils. Mais vous connaissez cette parabole. Tous les jours, le père était sur le pas de la porte et il scrutait l'horizon pour voir si ce fils qui était perdu va revenir. Et voici qu'il l'aperçoit au loin. Que fait-il? Il reste là, les bras croisés. Non, il court vers ce fils. Je ne vous raconte pas dans quel état il était. Il venait de garder les cochons. Il n'avait pas pris de douche depuis 10 ans. Mais le père le prend dans ses bras. Il lui dit, fils, bienvenue. Viens, on va faire la fête. C'est comme ça qu'on est reçu par le Père. Avez-vous déjà expérimenté ça? Avez-vous déjà expérimenté cet amour du Père qui vous prend dans ses bras? Il te dit, je t'aime. Tu es mon enfant. C'est une réalité. Il y en avait un qui n'était pas content. Le fils aîné. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content quand ça arrive. Même dans l'Église de Jésus-Christ. Quand quelqu'un est béni, il y en a toujours quelqu'un qui n'est pas content. Allez savoir pourquoi. Alors qu'on devrait tous être ensemble pour faire la fête. C'est ainsi. Tant pis pour lui. Et le Père le rétablit en tout. Et c'est tellement injuste, comme je le disais, que le fils aîné, lui qui est resté fidèle aux côtés de son père, qui a bossé, qui a trimé, qui a transpiré, il est furieux. Comment ce frangin, comment ce malotru, il a dépensé tout le fric qui revient et on l'accueille avec un tapis rouge, la fanfare et tout ça. Mais il ne pouvait pas supporter ça, il ne pouvait pas comprendre ce qu'était la grâce. Il ne pouvait pas. C'était un psychorigide, vous savez, un religieux. Les choses devaient se faire comme ça, et surtout pas comme ça. Comme ça, ça devait être. Ce malotru aurait dû être reçu à coup de bâton. Ah, puisqu'il a gardé les cochons, eh bien, on va le mettre, il va continuer à garder les cochons de la famille. Le Père l'a accueilli. Il l'a reçu dans ses bras. C'est ça la grâce. On reçoit quelque chose que nous ne méritons pas. La richesse injuste que Dieu nous donne à tous, c'est le salut. Injuste parce que aucun ne l'a mérité. L'habileté de l'économe, qui comme nous est infidèle dans la gestion des biens que Dieu lui a confiés, c'est d'avoir agi avec sagesse en allant distribuer la remise de dette à tous ceux qui sont débiteurs du maître. L'économe infidèle l'a fait pour être reçu par ses amis quand il sera au chômage. Jésus dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. En fait, la remise des dettes, c'est le pardon des péchés. Donner la remise des dettes aux débiteurs, c'est leur accorder le salut. Ici, il est à noter que Jésus donne cette parabole en premier à ses disciples, verset 1. Même si d'autres auditeurs comme les pharisiens l'entendent, mais ils se sont bien gardés de garder une certaine distance avec les disciples et Jésus. Oula, attention, faut pas trop. Attention, hein. Faut garder une distance, sait-on jamais. Les disciples sont ceux qui ont déjà reçu la remise de dette. Et l'appel leur est lancé d'agir avec sagesse, avec ce don précieux qu'ils ont reçu. Le personnage du grand propriétaire, vous l'avez bien sûr deviné, c'est Dieu lui-même. La bénédiction de Dieu et le salut doivent être partagés, mes amis. Ce que n'avait pas compris le mauvais riche. Il a tout gardé égoïstement pour lui, mais en faisant ainsi, il a tout perdu. En fait, il a profité des richesses injustes à des fins personnelles. C'est ce que Jésus appelle servir mammon. Dieu nous confie ses biens pour que nous accomplissions sa volonté et pas pour en faire un mauvais usage. Que faire alors de ces biens que Dieu nous a donnés? Parce que le verset 2 nous dit « Tout homme sera appelé à rendre compte de son administration ». On pourrait extrapoler en disant que les amis sont ceux que Dieu place autour de nous, les collègues, les pauvres, les malheureux, etc. La liste pourrait être longue. Jésus n'a-t-il pas dit aussi, en nous engageant sur cette voie, nous pouvons aussi être un instrument de salut, vous et moi. Pour conclure, comme je l'ai dit, Luc nous présente par ses paraboles, une progression concernant l'enseignement de Jésus sur le salut. Verset 11-12. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, c'est-à-dire les richesses de ce monde, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez revêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Wow. Là, on est dans la cour des grands. Là. L'exhortation du Seigneur souligne aussi le devoir d'utiliser notre argent pour le service de l'Évangile. Bon, je ne pensais pas parler de l'argent, mais comme il est parlé de l'argent, là, dans la parabole, j'en dis juste un mot, comme ça, en passant. Parce que à notre arrivée au ciel, vous avez déjà imaginé votre arrivée là-haut? Bon, moi, parfois, j'ai à la fois la comprenoire et l'imagination qui partent un peu dans des rêves comme ça. Je m'imagine très bien que vous pouvez être reçu par quelqu'un. Et peut-être que vous ne l'avez peut-être jamais vu sur Terre. Il sera capable de citer ton prénom et te dire « Ouais, José, c'est pas possible, tu es là. Terry, c'est pas possible, tu es là. Mais, et toi, alors tu vas chercher, mais d'où ce type-là me connaît, d'où cette personne m'a vu, me connaît. Mais dis, si, tu sais, si je suis là, c'est grâce à ton investissement dans le royaume de Dieu. On ne sait jamais quelle est la portée de ce que nous faisons, de ce que nous disons. On le découvrira là-haut. Ces personnes auront entendu la parole de Dieu, y auront cru, obtenu la vie éternelle en Christ. Et cela nous parle de notre témoignage au quotidien, dans notre travail, nos finances également. Nous devons être des exemples de gestionnaires. Si nous n'avons pas été fidèles dans cette tâche de distribuer la richesse injuste, qui pourra nous confier les véritables, c'est-à-dire celles des tabernacles éternels? Les tabernacles éternels nous évoquent la tente, le tabernacle qui pouvait être déplacé, mais pour nous, les tabernacles éternels, ce sera les demeures de la maison du Père, telles qu'elles sont écrites dans Jean 14, verset 2. Moi, je sais. Ma demeure là-haut n'est pas prête encore. C'est pour ça que je suis devant vous. Et je sais que quand elle sera prête, je le saurai. Et je ne vous embarrasserai plus avec les paraboles de l'argent et tout ça. Voilà. Mais c'est une réalité, frères et sœurs. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette parabole, vous imaginez bien. Mais ce serait trop long pour ce matin. Et ma prière, c'est que pour chacun d'entre vous, nous puissions réfléchir à la portée de cette parabole. Qu'est-ce que cela change dans ma vie? De savoir que tout appartient à Dieu et je ne suis qu'un gestionnaire. En fait, comment gérons-nous notre propre vie? La vie qui ne nous appartient pas, la vie que Dieu nous a donnée, encore une fois, par grâce. Le matin, quand je me réveille, je suis conscient qu'il y a un souffle de vie qui bat en moi. Et ma première chose que je dis, le matin en ouvrant l'œil, « Merci Seigneur pour la vie que tu as mis en moi aujourd'hui. » C'est tous les jours. C'est une prière de remerciement envers Dieu. « Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as mis en moi pour aujourd'hui. » Je dis bien pour aujourd'hui. Et cet aujourd'hui, j'ai peut-être eu le privilège de voir le soleil se lever, mais je n'ai qu'une garantie de dire que je le verrai se coucher. Parce que si ma demeure là-haut est prête, rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Comment gérons-nous notre vie que Dieu nous donne, nous a donné, et les dons et les talents qui sont en chacun de nous? Comment gérons-nous cela? Alors, lorsque nous paraîtrons devant notre Seigneur, chacun de nous puisse l'entendre nous dire « C'est bien. C'est bien, Philippe, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Amen. Notre Seigneur vous encourage. La marche chrétienne n'est pas triste, frères et sœurs. Si votre marche chrétienne vous rend triste, il faut vous poser des bonnes questions, des questions sérieuses, parce que notre avenir n'est pas là, là-haut. J'invite les musiciens à venir, et je pense que nous pouvons reprendre le chant « Te connaître, Jésus ».